autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour nous interroger dans cette rediffusion estivale sur les origines de la vie, quitte à remettre en question notre conception même du vivant, n'ayons peur de rien, et surtout pas de nous demander quelles sont les recettes de la vie sur Terre, mais aussi ailleurs, dans l'espace, avant, dans le temps, et même après, dans les futures formes de vies artificielles que nous créerons peut-être. Vers d'autres vies que la nôtre. Voilà jusqu'où nous ont entraîné en février dernier l'astrophysicien et poète Michel Cassé et la professeure Marie-Christine Morel, spécialiste des origines de la vie et de l'archéobiologie moléculaire, dans un essai particulièrement original, écrit à quatre mains, « Xénobiologie ». Et si nous n'étions qu'une forme de vie parmi d'autres, autour de la question jusqu'où nous entraînera la xénobiologie, bienvenue pour réécouter cet entretien libre et sidérant. Bonjour Marie-Christine Morel.
Bonjour.
Bonjour Michel Cassé.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous autour de cet ouvrage inédit, c'est le moins qu'on puisse dire, Xénobiologie, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. C'est aussi une vraie rencontre entre vous deux, une jolie conjonction de vos deux regards croisés sur le vivant, ses origines, son évolution, aussi imprévisible soit-elle, qui remettent en question notre conception même de la vie, on va y venir. Marie-Christine Morel, vous êtes professeure à l'Université Pierre et Marie Curie et au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste des origines de la vie et de l'archéobiologie moléculaire. Vous menez vos recherches sur les fragments, les briques les plus élémentaires du vivant pour comprendre d'où vient la vie et comment, sous quelle forme elle a émergé sur Terre, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai consacré toute ma vie, même toute ma carrière, disons, comme on dit dans notre milieu académique, à essayer de comprendre comment, d'où vient la vie. Comment cette chose absolument merveilleuse qui nous constitue et qui constitue toute la diversité du vivant, ce qu'on appelle la biodiversité, a pu se former un jour sur la Terre. Et plus on observe, de plus en plus près, on observe que le vivant répond à un certain nombre de caractéristiques. Le vivant est composé de ce qu'on appelle des molécules. Et que sont les protéines, que sont les acides nucléiques qui constituent nos gènes. Et puis tout ça est inclus dans un compartiment pour ce qui concerne les cellules. Et puis il y a des êtres qui sont acellulaires. Alors sont-ils vivants ou pas? Je pense aux virus, je pense aux viroïdes. Donc il y a toute une diversité à la fois réelle et à la fois conceptuelle qui me tient à cœur, qui me fait me lever tous les matins avec le sourire.
Qui est votre moteur. Michel Cassé, vous êtes astrophysicien, vous avez mené vos recherches au CEA et à l'Institut d'astrophysique de Paris, vous êtes aussi écrivain et poète, du vide et de la création, nostalgie de la lumière, pour ne citer que cela, ont rencontré un grand succès. C'est donc à la fois en tant qu'astrophysicien et en tant qu'écrivain que vous nous entraînez vers d'autres vies que la nôtre. La xénobiologie, comment la définir? C'est la recherche, l'étude de toutes les autres formes de vie, ailleurs, avant, après, dans le futur, dans le passé
Oui, c'est une tendance qui s'opposerait à l'anthropomorphisme. Donc, xéno, la racine, donc, signifie étrange ou étranger. Xéno recouvre aussi bien exobiologie, donc biologie ailleurs.
La vie, recherche de vie extraterrestre dans l'espace.
Extraterrestre, par exemple, oui. Et une vie artificielle. Bon, j'ai quelques peines à parler de vie artificielle parce que l'intelligence artificielle, ou le terme artificielle, a envahi notre société, et quelquefois on en parle de manière un peu indélicate.
Et là, il s'agit au fond d'aller un peu au-delà de toutes les frontières entre naturel et artificiel, de toutes les frontières de la vie. Marie-Christine Morel le disait, la vie, le vivant, est-ce qu'on peut aujourd'hui donner une définition de ce qui est vivant?
En première approximation, mais le consensus n'a pas été établi. Nous pouvons citer une centaine de définitions, mais là, je dépasse mes compétences et c'est plutôt à Marie-Christine.
Marie-Christine Morel, vous pourriez donner une définition du vivant? Vous dites vous-même qu'il y a des les virus, par exemple, c'est vivant ou pas?
Alors, donc il y a cet aspect pratique. Est-ce que les virus sont vivants ou pas, comparés au monde cellulaire? Mais moi, il y a une définition du vivant qui me convient tout à fait et qui a été écrite et donnée par Jean Rostand, cet immense naturaliste, penseur, moraliste, enfin, cet immense vivant, qui disait que la vie, c'est ce qui ne se laisse pas deviner.
Très joli.
Donc, je pense que toutes les tentatives qui datent de plus de presque un siècle maintenant, de transformation de la vie, de recréation de la vie, d'augmentation de la vie, de modification de la vie, toutes les tentatives actuelles qui sont exactement la même chose que la problématique qui se déroulait il y a 60 ans, à l'époque de Jean Rostand, eh bien, toutes ces recherches sont à la fois absolument passionnantes et dynamiques et stimulantes, etc. Et en même temps, elles sont vaines, puisque la vie, c'est ce qui ne se laisse pas deviner. Donc, où allons-nous avec le transhumanisme et avec la modification et les augmentations du vivant? On pourra en parler si vous le souhaitez.
On va en parler autour de la question de la vie, qui ne se laisse donc pas deviner, autour de la question de la xénobiologie, qui inspire évidemment l'éminent paléontologue Yves Coppin, qui était récemment notre invité. Écoutez son éclairage.
Ça m'intéresse et ça pique ma curiosité autant que celle des auteurs, je suppose. Et cette vie extraterrestre, on la cherche, comme on sait très bien que l'évolution, qui est plutôt ma discipline, on la voit se faire avec une petite marge de manœuvre à chaque carrefour. Ça veut dire que cette petite marge de manœuvre, elle a choisi une direction sur la Terre qui implique la direction suivante et ainsi de suite. Et il n'y a pas de raison que ce soit la même direction, même si c'est la même marge de manœuvre, qui ait eu lieu sur une autre planète. Donc la vie, quand on va la trouver ailleurs, même si elle est construite sur le carbone, elle sera forcément un petit peu différente. Et je suis, au même titre que l'ami Cassé, en attente de cette découverte que je souhaiterais qu'il fasse lui-même. Quant à la vie à venir, qui peut être en effet très différente, puisqu'elle peut être associée à bien des éléments de nos technologies, celle-là aussi, elle m'intéresse et elle retient toute ma curiosité. Sans crainte, je n'ai pas peur de la science, mais je comprends qu'elle puisse faire peur à certaines personnes, à juste raison. C'est tellement plus confortable d'être dans le présent que d'être dans la projection de l'avenir.
Qui veut réagir à cet éclairage d'Yves Coppens? Michel Cassé.
Oui. Ben, je reconnais bien Yves Coppens dans à la fois sa prudence et sa sagesse. En tout cas, il me fait bien confiance, mais ça n'est pas moi qui la découvrirai.
Cette vie ailleurs, dans l'espace extraterrestre. Non,
en ce qui me concerne, j'ai travaillé sur les conditions de la vie, sur ce qui peut amener à la vie, c'est-à-dire la synthèse des atomes dans les étoiles, et notamment de ceux qui sont propices à la vie. L'hydrogène, alors l'hydrogène est la cendre de l'explosion originelle appelée Big Bang, et dans une goutte d'eau, nous buvons l'univers.
Dans une goutte d'eau, nous buvons l'univers. Oui. C'est l'astrophysicien ou le poète qui parle?
Non, c'est la vérité.
C'est la vérité,
physique,
d'accord.
Scientifique qui parle, puisque l'eau est composée d'hydrogène, cendre de l'explosion originelle, donc vieille de 13,8 milliards d'années, vous voyez, nous ne sommes pas si jeunes, et de l'oxygène exhalé par les étoiles, ou plus exactement, produit et éjecté par les étoiles massives. Donc nous retraçons l'origine de chaque atome propice à la vie. Et alors ce que l'astrophysique peut offrir aux biologistes, ce sont les conditions de possibilité de la vie. Donc atomes, mais aussi molécules, puisqu'on reconnaît par les signes qu'elles produisent les molécules variées, situées, abritées par les nuages interstellaires. Et donc les nuages sont à la fois les réceptacles des cendres des étoiles mortes et le tissu dans lequel l'univers se taille des étoiles. Donc vous voyez, nous pouvons établir à la fois l'origine des atomes qui vont donner naissance à la vie, mais également l'évolution. C'est-à-dire l'accumulation au fil du temps des atomes nécessaires à la vie.
Marie-Christine Morin, ce que dit Michel Cassé sert la biologiste que vous êtes. La vie remonte à 13,7 milliards d'années sur Terre.
Non, c'est l'univers qui, c'est l'univers qui remonte à 13,7 milliards d'années. Et la vie sur Terre remonte à 3,85 milliards d'années. Donc pendant 10 milliards d'années, passé la physique.
Oui, la physique est
l'évolution. Donc, pas de vie, aucune forme de vie
à notre connaissance, de vie. Et donc ça a été le règne de la physique. Mais alors, vous ne m'avez pas posé la question de comment j'ai connu Michel Cassé. Donc j'ai rencontré Michel Cassé après avoir lu son livre du vide et de la création, qui est une masterpiece de la littérature et de la science. Et donc, j'ai invité Michel Cassé à un colloque que nous organisions avec Jean-Charles Pomerol, Thierry Godin et Dominique Lacroix à Cerisy, le fameux colloque de Cerisy. Et c'est ainsi que nous avons fait connaissance et approfondi nos domaines. Et moi, évidemment, ce qui me préoccupe depuis toujours, c'est quelles sont les bases ? Est-ce qu'il existe des bases physiques ? Est-ce que les lois de la physique peuvent nous permettre d'interpréter la vie ? Et donc, c'est la question que je pose en permanence à Michel Cassé, chaque fois que je le vois, chaque fois que je le regarde. Est-ce que la physique, est-ce que les lois de la physique peuvent nous permettre d'interpréter la vie ? Parce que je suis toujours arrêtée ou stimulée par cette phrase de Schrödinger qui disait que nous ne devons pas être découragés du fait que les lois de la physique ne nous permettent pas d'interpréter la vie, mais nous devons nous attendre à l'apparition, à la conception, à la découverte de lois que l'on pourrait appeler des lois non physiques, ou bien une superphysique ou une supraphysique. Et donc c'est le travail que j'ai commencé à faire avec Michel et que j'espère nous allons continuer au-delà de ce travail de xénobiologie, qui est, si vous voulez, pour moi le socle de notre rencontre. Mais je crois que la question fondamentale est celle-ci, c'est-à-dire que fait-on des lois physiques quand on considère la vie ?
On va méditer dessus en écoutant Gracias a la vida, un magnifique morceau de Mercedes Sosa que vous avez choisi, Marie-Christine Morel, sur RFI.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. La voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros.
RFI, les voix du monde.
Gracias a la vida, Mercedes Sosa sur RFI. Merci à la vie et merci pour ce choix, Marie-Christine Morel. Autour de la question de la xénobiologie, je vous propose une nouvelle question soulevée par Mathias Germain du mensuel La Recherche.
De plus en plus d'équipes de recherche arrivent à créer des acides nucléiques, comment dirais-je, étrangers, synthétiques, de nouvelles lettres à l'alphabet génétique. Est-ce que ces nouvelles lettres vont permettre de donner de nouvelles fonctions finalement à la vie, à des bactéries, aux organismes vivants ?
Votre réponse, Marie-Christine.
Oui,
Morel.
Bien, c'est le but de la discipline que l'on appelle maintenant xénobiologie, qui est à la frontière de la biologie de synthèse, des chimies, de l'exobiologie et des travaux sur les origines de la vie. Donc cette xénobiologie vise à modifier le vivant, et en particulier les macromolécules que sont les acides désoxyribonucléiques, au niveau
de l'ADN,
au niveau de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire en modifiant les bases azotées, qui sont les lettres A, T, G, C. Et puis, il y a d'autres modifications qui sont très très importantes. Au niveau du sucre, par exemple, le ribose ou le désoxyribose de l'ADN ou le ribose de l'ARN, l'ARN étant un proche parent de l'ADN,
qui aurait précédé
l'ADN, eh bien, ce sucre-là, ribose ou désoxyribose, est extrêmement difficile à obtenir dans des conditions primitives, que l'on appelle des conditions prébiotiques, et on remplace le ribose dans des molécules artificielles, qui sont des AXN, acides xénonucléiques. Et puis, on peut aussi remplacer le phosphore, qui est un des maillons de l'ADN, par d'autres molécules. Certains ont prétendu que l'arsenic pouvait remplacer le phosphore, puisque dans le tableau de Mendeleïev, que Michel peut vous décrire parfaitement...
le tableau des éléments chimiques.
Oui, eh bien, l'arsenic est très proche du phosphore. Voilà, donc il y a toute une série de modifications, et ces modifications entraînent, évidemment, des fonctions nouvelles au niveau de la synthèse des protéines. On fabrique également des acides aminés modifiés qui peuvent rentrer. Et donc, on s'attache à construire un nouveau code génétique.
Et pour recréer...
On bricole.
Oui,
bricole.
C'est ça, c'est du bricolage.
Oui,
mais jusqu'où, c'est là aussi où ça fait un petit peu peur.
On garde la trame, si vous voulez, et on essaie de créer quelque chose à partir d'une trame originaire.
Vous essayez de comprendre les origines de la vie, de créer d'autres formes de vie, de voir comment la vie aurait
les
pu...
Les deux sont liés. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on dit qu'on recherche les origines de la vie en essayant de fabriquer les molécules actuelles, c'est un raccourci fantastique de 4 milliards d'années. Il est bien évident que la vie n'est pas apparue sur Terre telle que celle que l'on observe aujourd'hui. Il y a dû y avoir d'autres molécules, d'autres formes d'organisation, donc une xénodiversité originelle extrêmement différente de celle que l'on connaît et qui s'est éteinte, exactement comme les dinosaures se sont éteints, exactement comme l'espèce humaine s'éteindra un jour. Eh bien, depuis 4 milliards d'années, il y a dû y avoir des formes de vie qui ont peuplé la Terre pendant des millions d'années et puis qui se sont éteintes. Et à partir de cette extinction est apparue une autre forme de vie, de la même manière que les mammifères placentaires sont apparus dès que les dinosaures ont laissé la place aux petites souris qui végétaient à leurs pieds et qui essayaient de se faire de la place, ma foi, dans ce monde.
Une vie chasse l'autre.
Voilà.
Alors, pour répondre à votre question sur l'utilité et le danger éventuel de la xénobiologie, il faut savoir que donc ces acides nucléiques transformés produisent bien plus que les 21 protéines que nous connaissons. On peut les compter par dizaines. Ce qui fait que ces nouvelles protéines pourraient, le cas échéant, avoir des usages pharmaceutiques, médicaux et économiques. Par ailleurs, on peut se servir des molécules produites, synthétisées, comme des matériaux. On peut en faire des fils extrêmement souples qui conduisent l'électricité et faire des ordinateurs qui tiennent sur le pouce.
Donc on peut faire bien, bien d'autres choses que la vie.
Alors j'insiste sur le fait que finalement des métiers futurs s'offrent dans le domaine de la nanobiotechnologie.
En attendant, recentrons-nous sur l'essentiel, si vous le voulez bien, Michel Cassé. Ma particule élémentaire, c'est pour vous, Florent Marchais, sur RFI.
Oh mon cosmos, ma galaxie, antimatière et longue nuit. Oh mes étoiles, ma voie lactée et mon soleil, rayon dardé. Oh mes comètes, tous mes nuages et ma planète prise en otage. Mes océans, au bleu cobalt, mes continents, mes îles de Malte. Écran capture, oh mon pays, ma préfecture, mon monoprix. Ma ruelle, oh ma maison, d'autres pixels à l'horizon. Oh mon amour et mes amis, oh mes enfants, ma chair, mon sang, oh mon cerveau et mes poumons, mes litres d'eau, oui mon côlon. Mes reins, mon foie, mes testicules, mon estomac, oh mes cellules, mon ADN, mes molécules, oh mes atomes, mes particules, mes électrons, oh mes neutrons, protons et quartz à l'horizon, enfin mes cordes où que je sois, la vie déborde à chaque fois, la vie déborde à chaque fois.
La vie déborde à chaque fois. Florent Marchais, ma particule élémentaire sur RFI, autour de la question de la xénobiologie et de l'exobiologie, de cette quête d'autres formes de vie, ailleurs dans l'espace ou avant dans le temps, une quête aux limites, partagée par nos invités, l'astrophysicien et poète Michel Cassé et l'archéobiologiste moléculaire Marie-Christine Morel, spécialiste des origines de la vie sur Terre. Mais qu'en est-il ailleurs, dans l'espace? Voilà la question que se posent tous les astrophysiciens et astrophysiciennes, comme Magali Deleuil, qui traque, elle, les exoplanètes, les planètes au-delà de notre système solaire.
Pour les astronomes, la question ultime, c'est au moins, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Est-ce que la vie est présente sur d'autres planètes que la Terre, en fait? Ça, c'est, je crois, le fil conducteur. On aurait envie d'avoir une réponse à cette grande question, quoi. Qu'on peut peut-être se commencer à se poser quand on regarde les étoiles la nuit. En fait, c'est fascinant. Ça, bon, et après, sommes-nous seuls dans l'univers? C'est pour certains peut-être une question angoissante. Enfin, moi, je ne la vois pas du tout angoissante. Pour moi, c'est une grande curiosité. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que rechercher des planètes, c'est un premier pas vers essayer de répondre à cette question. Sommes-nous seuls dans l'univers?
Immense question, Michel Cassé. Est-ce qu'il y a une probabilité qu'on puisse y répondre un jour à cette immense question? Sommes-nous seuls dans l'univers?
Mais il faut bien faire la part entre deux formes de vie. La vie microbienne, celle-ci me semble généralisée.
Donc exister ailleurs dans l'univers?
En toute probabilité, parce que nous ne sommes pas au centre de l'univers et la physique est universelle et la chimie aussi. Ainsi que la biologie, j'imagine. Et par ailleurs, la vie intelligente.
Ça, c'est moins sûr.
Infiniment moins sûr. Et donc, dans un premier temps, effectivement, le mieux, c'est d'y aller à pied, non, en fusée, aller gratter, etc. Rien ne remplace l'expérience.
Gratter le sol,
Dans le système solaire. Ça, c'est la première démarche. Ensuite, les objets, les astres sont si loin qu'il faut s'en remettre à la lumière, qui est un messager consciencieux, qui transporte les messages depuis leur source jusqu'aux yeux, jusqu'à nous.
Sauf quand c'est trop loin, à trop d'années-lumière, on ne pourra, même si on envoie un message, ou que d'autres
nous envoient un message,
on ne pourra jamais le récupérer.
Non, c'est pas ça. La lumière, non. Là, je parle vraiment de la spectroscopie, de la lecture de la lumière. Nous avons appris à lire le langage subtil de la lumière, et donc chaque atome ou chaque molécule est un violon, et elle émet des notes de musique ou des notes de lumière repérables. Et donc,
que nous pouvons percevoir.
Et surtout distinguer, et chaque molécule a son signe. Donc, nous n'avons pas besoin d'y aller. Et justement, c'est de la télé-recherche.
Pour trouver donc cette vie microbienne, ces formes de vie
dans l'atmosphère. Alors, donc il faut être vraiment précis. Mm-hmm. Il faut étudier la lumière qui traverse les atmosphères des planètes, éclairée par l'étoile qui est derrière, pour repérer les atomes qui confisquent la lumière de l'étoile. Donc on appelle ça un spectre d'absorption. Et on reconnaît par les notes manquantes, par les qualités de lumière manquantes dans la lumière des étoiles, la nature chimique, la composition chimique de l'atmosphère.
Donc, on sait si cette composition chimique pourrait être propice à ces formes de vie.
Oui, non. On cherche des biosignatures. Biosignature, ça veut dire que la vie a une signature nette. Devrait avoir une signature nette, si elle est vraie. Mais il se pourrait qu'il y ait des fausses signatures, donc il ne faut pas se tromper.
Pas des fausses vies, mais des fausses signatures.
Fausses signatures, par exemple, l'oxygène. L'oxygène, sur Terre, a été émis, produit par des plantes. Donc si on trouve de l'oxygène en excès dans l'atmosphère d'une planète, conjugué à d'autres excès comme le méthane ou des molécules qui sont produites par la vie, alors on peut dire qu'il y a des chances pour qu'il y ait de la vie sur cette planète-là. Donc c'est comme ça que nous procédons. Il faut des instruments extraordinairement précis et performants qui sont développés en Europe et en Amérique. Donc des satellites et aussi des grands télescopes.
Marie-Christine Morel, cette quête de forme de vie, donc on l'a compris, pas de vie intelligente, mais de forme de vie extraterrestre, enfin ailleurs, dans notre système solaire ou ailleurs, est-ce que ça intéresse la biologie?
Absolument. C'est-à-dire que c'est très intéressant pour les biologistes, et puis pour la question des origines de la vie, parce que jusqu'à maintenant, on continue à dire qu'on n'a qu'un seul spécimen de vie, celle que l'on connaît sur Terre, fabriquée avec des atomes carbone, hydrogène, oxygène, azote et phosphore. Et on n'a qu'un seul exemplaire. Donc aller chercher de la vie ailleurs et trouver des indices de vie ailleurs montrerait que la création de la vie, en quelque sorte, enfin la formation de la vie, est possible dans des conditions physiques et chimiques bien déterminées.
C'est-à-dire que ça pourrait être avec d'autres éléments. La vie pourrait peut-être... Est-ce que ça, c'est une possibilité?
Alors, c'est tout à fait une possibilité, mais que l'on ne sait pas explorer aujourd'hui.
Bien sûr.
Et ça, c'est dû à une absence d'outils intellectuels et d'outils conceptuels, donc, et d'outils technologiques.
D'outils intellectuels, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à imaginer...
On ne sait pas, vous savez, vous connaissez, tout le monde connaît la parabole, le chercheur cherche sous le réverbère, c'est-à-dire dans un périmètre d'éclairage extrêmement réduit, un trousseau de clés qu'il vient de perdre et qui est peut-être à 10 cm de l'auréole de lumière qui est donnée par le réverbère.
Donc, vous cherchez, vous, finalement, à élargir le rayon du réverbère.
Et donc, avec cette question de xénobiologie, c'est-à-dire fabriquer d'autres formes de vie, on élargit absolument notre périmètre de lecture et de vision, et on essaie de voir d'autres formes de vie possibles avec d'autres ingrédients, d'autres briques élémentaires. Autour et alors, oui. Simplement, je voudrais, au-delà de la question des exoplanètes, mm-hmm. il y a une recherche de vie dans notre système solaire sur d'autres planètes, sur Mars, oui, et puis ailleurs, sur des comètes, des astéroïdes. Est-ce qu'il y a des germes, ce qu'on appelait autrefois les germes,
dans
les microbes,
la Terre.
Et même,
dans
la Terre. Évidemment,
dans les fonds, dans les fonds marins.
Oui, sur Terre. La vie existe dans les moindres recoins. Dans les moindres recoins de notre planète, et y compris à l'intérieur de nous. Vous savez qu'on connaît des formes de vie absolument. Il y a plus de bactéries et de virus en nous que de nos propres cellules. Mais ça reste du domaine, si vous voulez, de la connaissance. Enfin, on en reparlera, si vous voulez, à propos de la roue du vivant. Ça reste du domaine de la connaissance que l'on peut saisir rapidement dans les 30 à 40 prochaines années. Mais il y a cette vie dont on parlait il y a quelques instants, ailleurs, dans d'autres galaxies, dans notre propre galaxie et dans notre propre système solaire, que l'on ne peut inférer qu'à partir de l'analyse des molécules qui se promènent dans l'espace et des raies de lumière qui sont modifiées en fonction des trajectoires, à la fois des planètes, à la fois des objets spatiaux et à la fois des incidences de ces molécules dans l'espace.
Autour de la question jusqu'où allez-vous nous entraîner avec cette recherche autour de la xénobiologie, je propose de nous arrêter sur un nouvel éclairage en forme de question également, soulevé par le mathématicien et informaticien Gilles Dewecq, qui était récemment notre invité.
Donc la xénobiologie est une science que je trouve passionnante parce que nous avons extrêmement peu de données. Et donc il est assez difficile de faire des lois générales sur la manière dont vivent les extraterrestres, puisque les seuls extraterrestres, enfin disons la seule planète que nous connaissons habitée aujourd'hui, c'est la Terre. Et donc il y a une question de méthode qui est passionnante, de comment est-ce que nous pouvons essayer d'imaginer ce que sont des êtres vivants si différents de nous peut-être, ou si semblables, on n'en sait rien. Et il y a deux méthodes qu'on peut imaginer. Il y a une méthode qui est le fait de s'appuyer sur la biologie, d'essayer de comprendre comment la vie est apparue à partir d'une soupe primitive. Mais il y a aussi une autre méthode qui commence à faire ses preuves dans d'autres champs scientifiques, qui est la simulation, c'est-à-dire d'essayer de simuler des êtres vivants ou des êtres un peu peut-être déjà organisés, peut-être des êtres au-delà de l'être monocellulaire. Et est-ce que Michel Casset pense que la simulation peut apporter quelque chose dans ce domaine scientifique.
Michel Casset, que pouvez-vous répondre à l'informaticien Gilles Dewecq ?
Je pense en effet que la simulation numérique peut nous permettre de sortir de l'anthropomorphisme. Dans la mesure où, donc sans produire de chimères ou de monstres en laboratoire, on peut toujours faire valoir que la physique est la physique, donc donner quelques règles de construction, des conditions, disons, dites extérieures de température, de densité, etc., donc qui simuleraient l'état physique de l'astre, et faire en sorte, si vous voulez, que tout s'enchaîne à partir du moment où on produit un programme, c'est-à-dire un algorithme. Et nous faisons bien exploser des bombes dans les ordinateurs. La simulation numérique est une avancée merveilleuse, puisque...
Pas seulement pour faire exploser des bombes, mais pour découvrir d'autres formes de vie.
Je pense justement que Bon, la civilisation guerrière que nous sommes est capable de développer des simulations numériques pour les bombes, elle peut très bien le faire pour la vie.
Ce qui permettrait du coup de dessiner, ce que vous avez commencé à faire, un autre arbre de la vie, Marie-Christine Morel. Parce qu'à la fin de ce livre, Xénobiologie, il y a une partie herbier extraordinaire prêtée par le Muséum national d'histoire naturelle. Et puis, il y a un arbre de la vie incroyable, c'est une œuvre d'art, je ne sais pas comment la décrire, mais complètement inattendue, qui n'a rien à voir avec l'arbre qu'on imaginait, ni même avec les buissons. Il y a d'autres branches. Alors nous ne sommes qu'une des branches, une petite branche de cet arbre somptueux.
Mais avant d'aborder cette question fascinante, je voudrais simplement revenir sur cette histoire qui a été évoquée il y a quelques instants.
Entre biologie et simulation.
Entre biologie. Les deux ne s'opposent pas. Alors d'une part, tous les produits de la biologie de synthèse, donc de la xénobiologie, sont d'abord le produit de l'activité, sont essayés par voie informatique, on essaie de voir les compatibilités entre les molécules, les liaisons possibles, celles qui sont permises, celles qui ne le sont pas, enfin, etc.
Tout ça, c'est grâce aux algorithmes, aux supercalculateurs.
Voilà, donc les deux, je pense que les deux ne s'opposent pas. L'expérimentation, l'observation et la simulation ne s'opposent pas, d'une part. Et d'autre part, il y a quand même, alors peut-être parce que je suis biologiste, c'est pas du chauvinisme, mais vous savez que les deux plus grandes théories biologiques, à savoir la théorie darwinienne de l'évolution et la théorie cellulaire de Schwann et Schleiden, n'ont jamais eu besoin de la simulation pour s'imposer. Il a suffi de l'observation et de la nature et voilà. Et donc je voudrais quand même souligner l'importance, comme disait Rostand à nouveau, du naturalisme.
De la nature de ce qui est.
Oui, il a écrit un livre formidable qui s'appelle Le droit d'être naturaliste. Et je crois qu'il faut vraiment s'ancrer dans ce droit-là pour bien comprendre l'évolution non seulement de la vie, des vivants, mais également des écosystèmes et de la terre sur laquelle nous vivons.
Et alors, de ces végétaux, on y arrive, à ces végétaux, à cet herbier extraordinaire et à cet arbre de la vie.
Voilà, donc cet herbier, donc, nous l'avons voulu à la fin du livre pour illustrer tous les noms barbares de molécules que nous employons à longueur de page parfois.
Et qui d'un seul pas, coup s'illustrent voilà,
et qui tout
très
coup
clairement
trouvent leur place dans des organismes vivants que sont les plantes et des organismes vivants actuels et du passé, puisque cet herbier montre des spécimens qui ont été collectés il y a plus de 400 ans. Et voilà. Et ça se termine par l'arbre du vivant, c'est-à-dire une grande fresque magnifique, le dernier en date qui nous a été donné par Jill Blanfield de l'université.
À la radio, c'est difficile de le faire passer à nos auditeurs. On va essayer de faire une photo, la mettre sur notre page Facebook, parce qu'il est vraiment extraordinaire.
Donc Jill Blanfield nous a cédé les droits de publication de cet arbre qui a été publié en 2016, où l'on voit donc les trois grands domaines du vivant, un immense domaine qui est le domaine des bactéries, des microbes.
Le
plus grand domaine. Un autre domaine qui est celui des archébactéries, donc ce sont encore des bactéries mais qui vivent la plupart du temps, mais pas seulement, dans des conditions extrêmes, et qui sont très proches du domaine des eucaryotes, des eucaryas, c'est-à-dire de notre domaine.
Qui est un tout petit domaine.
Alors, il ne faut blesser personne, je veux blesser le narcissisme d'aucun d'entre nous ici, mais nous sommes vraiment un tout petit espace. Et puis, quand même, dans cet arbre du vivant, c'est ça qui est le plus important, il y a un énorme domaine en mauve, vous le verrez sur la page Facebook de l'émission, et c'est un domaine d'organismes que l'on ne connaît pas. On appelle ça des CPR, c'est une espèce de biosphère cachée. La matière
noire...
C'est
pas de la matière noire, c'est de la matière violette.
C'est la matière noire du vivant, avec des molécules, des formes que l'on ne sait pas, que l'on ne retrouve pas dans les bases de données de tous les organismes vivants que l'on connaît aujourd'hui sur Terre. Donc il existe une matière noire vivante qui occupe toute cette place et qu'on est en train d'engranger dans les laboratoires et que l'on ne peut pas caractériser vraiment parce qu'on ne peut pas cultiver les organismes qui composent cette matière. On ne peut pas identifier les ADN, les ribosomes qui la constituent, qui n'ont rien à voir avec les molécules qui constituent le vivant actuel. Donc voilà, donc j'en parlerai pendant des heures, mais je pense que le temps nous est compté.
On va rester dans le mystère. Je vous propose d'écouter, là cette fois-ci c'est le choix. Votre choix, Michel Cassé, un extrait du Messie de Handel, interprété par les musiciens du Louvre.
RFI à Paris, 89 FM.
Everybody, shall be exalted, shall be exalted, shall be exalted, shall be exalted.
The crooked straight and the rough places fair. The crooked straight, the crooked straight and the rough places fair. And the rough places fair.
Sous la direction de Marc Minkowski sur RFI. Pourquoi ce choix sublime, Michel Cassé? Vous connaissez toutes les paroles, vous avez
oui,
tout traduit pendant...
Oh, quasiment, oui. Mais tout simplement parce que c'est la représentation même de la physique.
De la métaphysique ou de la physique?
De la métaphysique à la fois. Vous avez très bien vu. En fait, disons que c'est une exaltation de la physique.
Exaltation de la physique autour de la question de la xénobiologie.
Aussi, juste un petit mot, de la mégalomanie de la physique.
Ah, c'est vous-même qui le dites.
Hein. Oui, mais humblement.
Ça fait du bien, un peu de mégalomanie, parfois. Autour de la question de la xénobiologie et de la mégalomanie, justement, je propose un dernier éclairage en forme de question, ouverte par Philippe Charlier, médecin légiste et anatomopathologiste.
Quand on voit tous les progrès que fait l'homme avec la vie artificiellement maintenue, avec la vie créée presque de façon artificielle, la greffe d'utérus, avec les cellules souches, avec la fécondation in vitro, est-ce que l'homme ne se prend pas un tout petit peu pour un dieu? Est-ce qu'il n'outrepasse pas un tout petit peu ses fonctions? Est-ce que c'est le risque ou est-ce qu'au contraire c'est la marche naturelle de l'évolution humaine?
Marie-Christine Morel.
Oui, alors donc, moi je pense qu'aujourd'hui, nous ne brodons que sur une trame préexistante. Et loin de nous prendre pour des demi-dieux ou pour des démiurges, je crois que là où nous ne sommes que des petits sorciers, au fond, je crois qu'il faut quand même être un petit peu conscient de nos limites.
C'est-à-dire qu'on brode, c'est-à-dire qu'au fond, vous partez de la vie, de ce qu'elle est, et vous en rajoutez ou en enlevez un peu.
Voilà, et on fait de l'augmentation de l'homme. Et je voudrais parler d'un exemple absolument extraordinaire. Un homme, en 2004, un Britannique, s'est fait greffer. Il était atteint d'une infirmité génétique, il ne voyait que la vie en noir et blanc, et on lui a greffé une antenne qui lui permet de transformer les ondes lumineuses en vibrations, qu'il a appris à interpréter, et donc maintenant il voit la vie,
vie en couleur.
Et alors cet homme a créé...
En rose.
En rose et en plusieurs couleurs. Et il a créé une association, cet homme, qui s'appelle Trans Species Societies, dans lequel qui regroupe, selon lui, donc, toutes les personnes qui ne se considèrent pas comme humaines, et parce que, dit-il, cette antenne, maintenant, c'est devenu un organe. Et ce n'est pas un artifice, c'est devenu un organe.
C'est un homme,
c'est un cyborg, il s'appelle lui-même un cyborg. Et effectivement, il y a toute une tendance technocratique, de la technocratie biologique, qui a tendance à vouloir dénier le fait que nous partons tous d'une trame et que nous ne sommes que des petits sorciers qui trafiquons autour de cette trame, et qui veut... faire penser que nous sommes en train de fabriquer une autre espèce humaine.
Michel Cassé, vous êtes d'accord avec Marie-Christine Morel? Vous pouvez souligner qu'en cette année 2018, on fête le 200e anniversaire du Frankenstein, de Marie Shelley. Mais on en est loin, nous ne sommes que des tout petits sorciers.
J'aime beaucoup cette formule de petits sorciers. Oui, mais nous avons de la ressource.
En tant que petits sorciers?
Oui, en tant que petits sorciers.
C'est-à-dire que nous pouvons aller très loin, trop loin, plus loin?
Si vous voulez, le jugement moral ne nous appartient pas. Les comités éthiques sont là pour faire leur travail. Mais j'espère qu'ils seront assez avisés pour ne pas avoir peur. C'est-à-dire que l'analphabétisme règne en général, scientifique. Et donc j'appelle de mes voeux non pas un Socrate musicien, mais un politicien scientifique qui soit fondé à parler de la science de manière lucide. En même temps, je serais bien sûr contre la République des savants.
Vous voudriez quoi? Qu'on puisse tous peut-être, grâce notamment à cet herbier ou à cet arbre du vivant, percevoir un peu ce qui se passe et comprendre que nous ne sommes que des petits sorciers, mais il faut
oui,
quand même...
Oui, en même temps, si vous voulez, le but c'est de rendre la science aimable. Mais il ne s'agit pas, encore une fois, d'édifier quoi que ce soit. Je pense que nous ne sommes pas les mères ou les pères de la vérité.
En tant que scientifique, hein.
Exactement. Donc il y a doute, il y a trouble, il y a travail, évidemment.
Et il y a imagination.
Et il y a imagination, en effet. Ce qui, finalement, est la dernière aventure du siècle. Ou la dernière aventure de la poésie, puisque vous avez eu la gentillesse de me qualifier en tant que tel, bien que, en ce qui me concerne, je me trouve bien loin encore de la poésie, qui est un
but à atteindre. Mais en même
temps,
quand on est autour de la vie, quand on tourne autour de la vie, il y a évidemment l'imagination, la poésie,
Mais il y a l'émotion, toute simple.
Oui, l'émotion, bien
l'émotion d'être vivant. Et surtout, nous ne sommes... Bon, la biologie et l'astrophysique ne sont pas, je dirais, des recherches qui peuvent amener à une transcendance, pas encore du moins. Et l'astrophysique et la biologie ne sont pas des sciences de la conscience, pas encore.
Pas encore. Faudrait-elle qu'elle le soit? On ne sait pas. Je vous réinviterai pour en parler.
Absolument,
peut-être,
je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais là, en vous écoutant, je me disais que, au fond, il y a tout ce bricolage du vivant, comme disait François Jacob, qui est à l'œuvre dans les laboratoires, dans les esprits des chercheurs, physiciens, biologistes, etc. Mais je reviens sur cette phrase de Jean Rostand dont j'ai parlé au début de l'émission, à savoir que la vie ne se laisse pas, c'est ce qui ne se laisse pas deviner. Et il y aura, après l'espèce humaine, une autre espèce toujours vivante et qui sera plus belle et peut-être plus transcendantale que celle qui s'exprime aujourd'hui.
La vie ne se laisse pas deviner. On va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment Marie-Christine Morel, merci infiniment Michel Cassé d'être venu en direct sur RFI partager toutes ces pistes de recherche et de réflexion et d'imagination. Le titre de votre livre Xénobiologie vers d'autres vies vient de paraître chez Odile Jacob. Merci de votre curiosité, merci de votre interactivité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert autour de la question. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les deux et un nouveau journal sur nos ondes dans une poignée de secondes.
RFI, les voix du monde.